Alors, on va continuer notre dixième sermon dans notre série sur la souveraineté de Dieu. On va voir cette semaine la souveraineté de Dieu et ce qu'on appelle l'élection inconditionnelle. Alors, probablement que la leçon d'aujourd'hui serait longue au point que je vais être obligé de la donner en deux leçons. Alors, je vous donnerai pas, pour ceux qui ramassent les copies imprimées là, cette semaine, je vous les donner la semaine prochaine lorsque les deux leçons seront données. Alors, juste pour faire un petit résumé. Parce que quand on regarde une série, c'est un peu comme quand quelqu'un fait une peinture sur un grand mur. Il est en train de peindre à un coin, on voit une partie du coin. Là, il change de place, il fait un autre dessin. Et on ne voit la grande image que lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde toutes les petites peintures qui ont été faites sur le grand mur. Quand on regarde une série sur la souveraineté de Dieu, par exemple, on a besoin aussi de... Chaque leçon montre un aspect particulier de la souveraineté de Dieu. Mais on a besoin, des fois, de prendre un peu de recul et de regarder tout ce qu'on a vu jusqu'ici de manière à ce que notre vision soit de plus en plus puissante, de plus en plus complète. Alors, dans notre premier sermon, on avait défini la souveraineté de Dieu. On avait examiné les raisons pour lesquelles Dieu a le droit de régner et quelle était la nature de son pouvoir. On avait vu que son pouvoir était absolu, complet, qu'il comprenait toutes les formes de gouvernance et que Dieu dit dans sa parole qu'il ne rend de compte à personne. Pourquoi il rend de compte à personne? Parce que tout ce qu'il fait est parfait et il n'a pas à être questionné par nous qui sommes des pécheurs, qui ont l'esprit enténébré. Alors, quand Dieu fait quelque chose, il le fait toujours sagement, il le fait toujours avec plein d'intelligence et plein de bonté, plein d'amour, de grâce et de chacun de ses attributs. Alors, c'est pour ça qu'il ne rend pas de compte à personne, parce qu'on n'est pas organisé pour y poser des questions. On est à cause du fait qu'on est des pécheurs. Et on avait vu aussi que dans la souveraineté de Dieu, aucune forme d'opposition n'est possible. Ceux qui ont lu l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, on avait vu le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi le plus puissant de l'époque. Et à un moment donné, son esprit s'est élevé, puis il pensait que tout ça, là, c'était à cause de lui. Le Seigneur l'a amené à manger l'herbe des champs. Un grand roi, le plus grand de l'époque, il l'a amené à manger l'herbe des champs, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est le Dieu souverain qui mène toutes choses. Il élève un homme au pouvoir, il enlève un homme du pouvoir, etc. Et jusqu'à quand il l'a reconnu, le Seigneur lui a redonné son pouvoir, lui a redonné sa place de roi, qui était très certainement au moins l'équivalent de la puissance des États-Unis actuellement, pour cette époque-là. C'était gros, là. Alors, on avait vu que l'Éternel règne sur la création, dans toute la création complète. Et ici, il faudrait rentrer dans les détails de savoir combien il y a d'étoiles, combien c'est grand l'univers. Plus la science moderne regarde jusqu'à quel point c'est grand ces affaires-là, les gens n'en reviennent pas de voir jusqu'à quel point c'est grand. Et le Seigneur contrôle toutes ces choses-là. Donc, il contrôle la création, la providence. Souvent, on utilise le mot providence sans nécessairement réfléchir au sens que ça a. La providence, c'est tout simplement l'ensemble des circonstances que le Seigneur permet qui arrivent dans vos vies de tous les jours. Fait qu'autrement dit, il n'y a rien qui arrive dans la vie de tous les jours que le Seigneur n'ait pas voulu qu'il arrive dans votre vie. Et tout cela, par sa sagesse, il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose travaille ensemble ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quand une personne est régénérée, tout ce qui arrive dans ta vie, le Seigneur permet un mélange de choses qui sont douloureuses et un mélange de choses qui sont heureuses ou plaisantes. Et il fait un tricot avec ça. Parce que par les choses déplaisantes, il nous enseigne des choses, puis par les choses plaisantes, il nous enseigne encore d'autres choses, et c'est l'ensemble de tout cela qui contribue à notre bien, à nous faire ressembler davantage à la personne de Jésus-Christ. Le but de toutes ces circonstances-là, c'est de permettre que Dieu permet que, à cause des expériences qu'on vit, on vient à ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ. Et quand on lit les évangiles, ressembler à la personne de Jésus-Christ, c'est un gros contrat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas comme lui, mais que Dieu voudrait qu'on fasse comme lui. Il nous emmène tranquillement à aller dans cette direction-là. Dans le deuxième sermon, on avait développé l'idée que le Seigneur règne sur la création dans son entier. Les créatures inanimées et aussi sur les éléments, le vent, la pluie, les orages, la neige, tout. Ensuite, sur les créatures animées, autrement dit, sur les animaux, sur les êtres humains, il règne sur tout ce qui est vivant. Troisième et quatrième sermon, on avait étudié une autre facette, celle que Dieu règne sur les anges bons et Dieu règne sur les anges mauvais. Autrement dit, les anges bons sont à son service, il les envoie pour rendre des services aux saints, aux personnes sauvées, et faire d'autres travails pour lui sur la terre. Et les anges mauvais, les démons, il les contrôle aussi parfaitement. Alors, quand on commence à regarder jusqu'à quel point le Seigneur est souverain, qu'il contrôle toutes choses, on est impressionné. Et dans le cinquième sermon, on avait regardé le fait que le Seigneur contrôle la vie de tous les individus de la terre, simultanément. Là, on parle de quelque chose comme 8 milliards, si je ne me trompe pas, on est à peu près à cette... Imaginez-vous, moi j'ai de la misère à retenir 30 noms d'une assemblée, des fois. Des fois, je m'en souviens toutes, des fois, je l'oublie. Mais imaginez-vous 8 milliards de personnes que vous connaissez à la perfection et que vous contrôlez leur vie dans les moindres détails de leur vie. Et non seulement il le fait sur une base individuelle, donc sur toutes nos vies à nous, mais il le fait aussi sur une base collective. Il élève des personnes au pouvoir, il enlève des personnes du pouvoir, il contrôle les nations. Parfois, on est porté à regarder ce qui se passe dans le monde uniquement en termes de politique. On voit les hommes chicaner entre eux autres, les guerres et tout cela. Mais les Écritures nous disent que le Seigneur est au contrôle de tout cela. Alors donc, il contrôle, il règne souverainement sur les hommes, à la fois individuellement et collectivement. On avait regardé aussi que, dans le sixième sermon, que la souveraineté de Dieu, c'est une prérogative. Donc, c'est un avantage ou un droit qui est rattaché à sa fonction. Prérogative divine. Il a le droit de le faire parce que c'est sa fonction comme Dieu souverain parfait de faire ces choses-là. Donc, il a le droit de régner, de gouverner et de contrôler parfaitement toute sa création. Il est digne et il l'accomplit à la perfection malgré que nous, on regarde les choses extérieurement. Puis parfois, on est porté à penser que Dieu nous a-tu oublié, il y a de la guerre, il y a ci, il y a une guerre civile, il y a ci, il y a ça. Mais Dieu se sert de toutes ces choses-là dans un but précis. Alors, il contrôle aussi les actions méchantes des hommes. Et dans sa sagesse, il en fait ressortir du bien. Qu'on prenne l'exemple de Joseph dans le livre de la Genèse, où ses frères l'avaient vendu pour faire de l'argent parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et Dieu se sert du fait qu'il soit envoyé en Égypte et qu'il devienne le second après Pharaon pour sauver son peuple éventuellement d'une famine qui avait lieu dans le pays d'origine. Alors on voit que Dieu se sert des actions méchantes des hommes dans le but d'en faire ressortir du bien. Il n'y a rien que Dieu qui est capable de faire des choses pareilles. Et parfois dans nos propres vies, Dieu peut permettre qu'il y ait des choses que les méchants veulent nous faire et que le Seigneur se sert des actions de ces personnes-là pour en faire ressortir quelque chose de bon. Ça prend quelqu'un comme le Seigneur pour être capable de faire ces choses-là. Et on avait regardé dans notre septième et huitième sermon que c'est le Dieu trinitaire dans la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui est souverain dans la conception, dans la réalisation et dans l'attribution du salut. Et là, on avait vu aussi dans le neuvième sermon la corruption totale de l'homme et que cette corruption-là qu'on a tous en naissant à cause du péché d'Adam, Dieu a besoin d'intervenir. Sans ça, on serait demeuré là-dedans. C'est la grâce qui intervient, qui vient vers nous, qui nous montre des choses. Et aujourd'hui, on va regarder 10e et 11e sermon, celui de la semaine prochaine, l'élection inconditionnelle. On va regarder un petit peu tout ce que cela signifie et de voir comment la main divine, comment la main souveraine de Dieu intervient dans tout ça. Alors, on sait qu'à cause de la transgression d'Adam, tous ses descendants, ça c'est tous les hommes, sans exception, entrent dans le monde comme des pécheurs coupables et perdus. comme créature déchue. Les hommes, ils n'ont aucun désir d'avoir de la communion avec le Créateur. Dieu est saint, juste et bon, tandis qu'eux, ils sont pécheurs, pervers et corrompus. S'ils sont laissés à leur propre choix, il s'ensuit inévitablement qu'ils suivent le Dieu de ce monde, qui est Satan, et qu'ils accomplissent sa volonté. Conséquemment, les hommes se sont coupés eux-mêmes de la compagnie du Seigneur et ont abandonné tout droit à son amour et à sa faveur. On va voir des versets tantôt. Là, je vous donne comme un plan global de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il aurait été parfaitement juste pour Dieu de laisser tous les hommes dans leur péché, dans leur misère, et de ne pas leur témoigner de miséricorde à aucun d'entre eux. Il aurait pu faire ça, puis il n'y avait aucune injustice. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on doit présenter la doctrine de l'élection inconditionnelle. Alors, cette doctrine-là, qu'est-ce qu'elle dit? La doctrine de l'élection inconditionnelle déclare que Dieu, avant la fondation du monde, a choisi certains individus entre les hommes déchus de la race d'Adam, chez nous, pour être les objets de sa faveur imméritée, voire déméritée. Souvent, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu ça dans des sermons quelque part, on définit souvent la grâce comme une faveur imméritée. Imméritée, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Moi, j'avais lu dans un autre livre de théologie que je trouvais beaucoup plus exact, c'est la grâce est une faveur déméritée. On va prendre l'exemple, vous vivez dans une maison et vous avez une valise, vous avez $1 million dedans. Puis vous allez cogner à la porte de votre voisin et vous dites, voici, je te donne ça. Il ne vous a rien fait. Vous lui faites une faveur imméritée. Il ne l'a pas mérité, mais vous lui donnez par pure bonté. Mais une faveur déméritée, c'est que si la personne est un ennemi de votre famille et qu'à tous les jours, il garoche des roches dans vos vitres et il les casse, vos enfants sortent, il lui fait du mal, etc., etc. Autrement dit, quelqu'un, il est en inimitié contre toi, il est ton ennemi, il n'arrête pas de te faire du mal. Et toi, tu pars avec ta valise puis tu vas lui donner encore $1 million. Ça exprime mieux la faveur déméritée. Autrement dit, nous, on était des pécheurs. On faisait du mal contre Dieu sans arrêt. Et Dieu vient nous accorder la grâce que nos péchés soient pardonnés et de nous donner la vie éternelle. La grâce, c'est vraiment quelque chose de démérité pour les pécheurs. C'est important de faire la distinction parce que moi, je calcule que faire une grâce à quelqu'un alors qu'il est ton ennemi, ça prend Dieu pour le faire. Parce que nous, normalement, dans notre cœur, quand quelqu'un est notre ennemi, on n'est pas porté à lui faire du bien, bien au contraire. Alors, le Seigneur dit que c'est à ceux-là et à ceux-là seulement qu'il a résolu de les sauver. Dieu aurait pu choisir, s'il avait voulu, de sauver tous les hommes sans exception. Il en avait le pouvoir, il en avait aussi l'autorité. Mais c'est pas ça qu'il a décidé de faire. Il aurait pu décider d'en sauver aucun, où il aurait pu décider de les sauver tous. Mais à quelque part, la solution que les Écritures nous apprennent, c'est un petit peu entre les deux. Alors, il n'était pas dans l'obligation de montrer de la miséricorde à aucun. Alors, il a fait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire il aurait pu pas sauver personne, puis il aurait pu sauver tout le monde. Alors, il a plutôt choisi d'en sauver un certain nombre et d'exclure les autres. Son choix éternel d'élire certains pécheurs particuliers en vue du salut ne fut pas basé sur le fait qu'il voyait d'avance une décision des hommes ou une réponse de leur part au message de l'Évangile, mais sa décision fut basée uniquement sur son choix souverain et son bon plaisir, comme ça dit dans les Écritures. On va aller voir les versets tantôt pour tout ça. Là, dans le fond, je vais juste présenter la grande image. Donc, l'élection ne fut pas déterminée ou conditionnée sur une action de la part des hommes, mais résulta entièrement de la résolution de Dieu. Ceux qui ne furent pas choisis en vue du salut furent abandonnés par le Seigneur à leur choix méchant. Il n'appartient pas à la juridiction de la créature déchue de questionner la justice du Créateur dans le fait qu'il n'a pas choisi tous les pécheurs. Il nous suffit de croire que le juge de la terre fait toujours ce qui est juste. Nous devons cependant garder à l'esprit que si Dieu ne s'était pas gracieusement choisi un peuple pour lui-même et souverainement déterminé de pourvoir à leur salut et à leur appliquer, aucun n'aurait été sauvé. Le fait qu'il ait fait cela pour certains et qu'il ne l'a pas fait à d'autres n'est en aucun cas injuste à cause que l'on maintienne que Dieu était dans l'obligation de pourvoir le salut aux pécheurs, une position que la Bible rejette absolument. Dieu n'était pas obligé. Il faut comprendre ça. Alors, la doctrine de l'élection devrait être vue avec le rappel de la doctrine de la corruption totale de l'homme, qu'on a vu la semaine passée, et de son incapacité à se sauver lui-même. Cette doctrine doit être examinée à la lumière de l'alliance trinitaire, qu'on a vue aussi la semaine passée, entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, l'alliance, comme on dit, prévoyait que le Père choisisse de ce monde un nombre défini de pécheurs et de les donner à Dieu le Fils pour devenir son peuple. Dieu le Fils accepta volontairement d'accomplir ce qui était nécessaire pour sauver ceux que le Père avait choisis et qui lui avaient été donnés. La part du Saint-Esprit dans l'exécution de l'alliance fut appliquée aux élus, le salut garanti par l'œuvre du Fils. Il résulte de tout cela que l'élection n'est qu'un aspect, mais cependant très important, de la fin salvifique. En anglais, ils vont dire « the saving purpose ».« Saving purpose », c'est un but, le but de sauver, du Dieu trinitaire, et de ne pas être en vue comme le salut. Alors, l'acte de l'élection ne sauve personne, mais l'acte sert à marquer ces individus en vue du salut. On va tout revoir ça tantôt avec des versets. En conséquence, la doctrine de l'élection inconditionnelle ne doit pas être divorcée de la doctrine de la culpabilité, de la rédemption et de la régénération, au risque de la tordre ou de la dénaturer. En d'autres mots, nous devons garder cette doctrine dans une vue balancée et biblique. Lorsqu'elle est comprise correctement, l'acte d'élection de Dieu le Père doit être relié à l'œuvre rédemptrice du Fils, qui s'est donné lui-même pour sauver les élus, et à l'œuvre du renouvellement du Saint-Esprit par la régénération, qui amène les élus à la foi en Jésus-Christ. C'est un petit peu beaucoup, là. Mais on va revenir avec chacun des points et on va voir les versets, ce qu'ils disent. Dans le fond, je vous ai présenté la doctrine de l'élection dans son ensemble, dans le but qu'on puisse aller avec les Écritures dans chacune de ces facettes. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est que l'élection inconditionnelle est un choix divin. On va regarder des Écritures que le Seigneur démontre qu'il s'est choisi un peuple élu, qu'il l'a prédestiné au salut, et par conséquent, il l'a prédestiné à la vie éternelle. Alors, regardons Deutéronome, chapitre 10, versets 14 et 15. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y est. Cependant, l'Éternel n'a pris en affection que tes pères pour les aimer, et après eux, d'entre tous les peuples, il vous a choisi, vous, leur postérité, comme vous le voyez aujourd'hui. Alors, ici, les mots importants à regarder, c'est qu'il vous a choisi. Dieu a choisi son peuple de toute éternité, ceux qui étaient en vue de recevoir le salut. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu fais habiter dans tes parvis, nous serons rassasiés des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. Psaume 106, verset 4 et 5. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance envers ton peuple. Fais venir à moi ton salut. afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Acte 2, verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te tiendrai comme un cachet, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Et ça, le Nouveau Testament, vous avez sûrement lu dans Matthieu, chapitre 11, verset 27. Toute chose, ici c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père. Et nul ne connaît le Père que le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. » On le reprend. Toute chose, alors le Seigneur, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît le Père que le Fils. Autrement dit, il y a juste le Fils qui connaît le Père. Et nul ne connaît le Père que le Fils et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Autrement dit, on ne peut pas connaître le Père sans que le Seigneur nous ait révélé à chacun de nous individuellement. C'est ce qu'il dit. Et à celui à qui le Fils, Jésus-Christ, aura voulu le faire connaître. Matthieu 24, les versets 22, 24 et 31. Alors, Matthieu 24, c'est le chapitre où Dieu parle, Jésus parle de la fin du monde. Il dit que si ces jours-là m'avaient été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Verset 24, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même s'il était possible. Voyez-vous, t'es en train de dire qu'à la fin des temps, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des faux Christ qui vont faire des choses tellement grandes que même les élus, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, pourraient être séduits si Dieu n'avait pas intervenu. Alors, ça montre à quel point ça va être puissant, là, les choses de la fin. Alors, il dit, pour séduire les élus même, s'il était possible. Et dans le verset 31, ça dit, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette. Et ils rassembleront 16 élus des quatre vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Et Romains 28, alors on a parlé Romains 8, 28, c'est d'une importance capitale pour saisir la doctrine de l'élection. Romains 8, versets 28 à 30 et le verset 33. Alors, on va les lire, ça va nous remettre un petit peu dans le contexte, alors, quand on disait la question de la providence, que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, versets 28 à 30. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans le grec, dans la langue grecque de l'original, c'est « toutes choses travaillent ensemble ». Donc, c'est toutes choses qui arrivent, que les choses que toi, tu perçois comme étant douloureux, ou les choses que Dieu permet dans ta vie comme étant joyeux ou plaisant, toutes ces choses-là travaillent ensemble. C'est comme un tricot que Dieu se sert. Et le but de tout cela, c'est de t'amener à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, parce que ça dit le verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, on a parlé tout à l'heure qu'il avait choisi son peuple et les avait placés en Jésus-Christ dès l'éternité. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Le but de toutes ces choses-là qui nous arrivent dans nos circonstances, on se devrait jamais de chialer quoi que ce soit contre les circonstances que Dieu nous envoie. Pourquoi? Parce que c'est son œuvre, et c'est parfait, et c'est sage, et c'est plein d'amour, et c'est plein de miséricorde. Et il y a un but saint à tout cela. Et le but, c'est de vous emmener à l'image, à la ressemblance de l'image de son Fils. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Il faut revenir un petit peu sur la notion de la justification. On en a parlé un petit peu tantôt au début du culte. La justification, c'est que Dieu dit que pour vivre en sa présence, il faut que tu sois un juste. Il faut que tu aies accompli à la perfection le commandement, les 10 commandements de Dieu durant toute ta vie et de ne pas avoir manqué une seule fois au niveau de tes pensées, au niveau de tes paroles, au niveau de tes actions, au niveau de tes omissions. Y a-t-il un être humain qui a fait ça? Aucun être humain. Et le Seigneur avait dit aussi que si tu désobéissais à la loi, la punition qui était rattachée à ça, c'était d'être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité. Alors, si une personne n'a pas reçu la grâce de Dieu et qu'il meurt dans cet état-là, il va aller dans l'enfer pour payer pour ses péchés. Parce que les offenses contre Dieu sont des offenses éternelles. C'est pour ça que l'enfer est un endroit où la punition va être éternelle. Maintenant, si nous, on n'a pas accompli ce que Dieu veut qu'on accomplisse, et si on n'a pas, vu qu'on est sauvé, la Bible nous dit que nos péchés, Dieu ne les jugera pas en nous, nous enverra pas en enfer. À quelque part, il faut que Dieu est juste, et si c'est pas nous qui a payé pour les péchés, nos péchés, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et le salut est tout là, en Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ, il a voulu être notre représentant. Il dit, ceux qui sont en moi, là, moi j'ai accompli à la perfection la loi que Dieu exigeait qu'on accomplisse en tout temps. Et lui, quand il est venu sur la terre, il était sans péché, il n'a jamais péché une seule fois, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Et le Seigneur dit, si tu crois au Seigneur Jésus, qu'il a fait ça pour toi, tu es sauvé. Et non seulement Jésus a accompli, a subi le châtiment que tu aurais dû subir en enfer à ta place, mais il a aussi accompli à la perfection ce que le Père exigeait que toi tu accomplisses dans ta vie tous les jours. Et la foi en Jésus-Christ, c'est que les deux choses te sont données par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te régénère, te mène à la vie nouvelle, il te fait comprendre que la personne de Jésus-Christ a accompli à la perfection la loi que Dieu exigeait de toi. Donc, il le fait à ta place. La doctrine de la substitution, il s'est substitué à toi pour accomplir ce que Dieu exigeait de toi. Et il s'est substitué à toi pour recevoir la punition qui aurait dû être la tienne. C'est peut-être plus beau que ça. Ce que ça dit ici. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Un moment donné, Dieu t'appelle dans la vie. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Pourquoi on peut dire, je peux regarder tout le monde qui dit qu'il est croyant, et qui est un véritable croyant, que tu es un juste? Je peux regarder quelqu'un qui est croyant et dire, tu es un juste. Pourquoi je peux dire que tu es un juste alors que tu as péché toute ta vie? Pourquoi je peux dire ça? Parce que ça dit, il les a justifiés à cause de ta foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ, qu'on vient de dire. Si tu crois en Jésus de cette façon-là, tu es déclaré juste par Dieu lui-même. C'est comme s'il y avait, sur la terre, on a des niveaux de gouvernement pour juger tes affaires. Tu sais. On va dire, on va aller en cour supérieure. Et si en cour supérieure, tu n'es pas encore content, tu vas aller en cour suprême. Mais la cour suprême, dans l'univers, c'est Dieu. Et quand Dieu te déclare juste, c'est une déclaration. Il dit, cet homme, ou cette femme, ou cet enfant, est juste parce que je le déclare juste. Pensez-vous que Dieu déclare juste comme ça une personne, juste pour dire, lui, il n'est pas trop pire, il n'est pas trop péché dans sa vie, on va le déclarer juste. Il ne déclare juste sur la base de sa foi en la personne de Jésus-Christ qui a accompli la loi à la perfection à sa place et qui a subi le châtiment à sa place. Voyez-vous, c'est quelque chose de tellement extraordinaire quand on dit, voyez-vous, dans le verset 33, quand on voit dans Romains 8, verset 28 à 30, et le verset 33, c'est comme la conclusion. Ça dit, qui accusera les élus de Dieu? Autrement dit, si quelqu'un serait au ciel aujourd'hui, il dirait, lui, un juste, va t'en nommer une liste de péchés qu'il a fait. Satan, fais ça, t'es un accusateur. Il va devant Dieu, puis il n'arrête pas de t'accuser. Mais Jésus peut lui répondre au Père, mais Père, j'ai payé pour les péchés de cet homme-là. Tous, sans exception. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Parce que ça dit, qui accusera les élus de Dieu? Même si quelqu'un veut t'accuser après le moment que tu as placé ta foi en Jésus-Christ, il dit, Dieu est celui qui les justifie. Il est juste, c'est nous. C'est Dieu qui t'a justifié. Comment quelqu'un viendra en arrière et essaiera de salir ton nom, de salir ta réputation? Dieu ne te juge pas en fonction de ce que tu fais présentement. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé par ce que tu fais. Tu es sauvé à cause que tu as placé ta foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 12. « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Regardez bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a point destinés à la colère. » De qui il parle? Il parle des saints, il parle des croyants. « Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Autrement dit, le jugement d'aller en enfer pour l'éternité. « Mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le salut ne vient pas de nous, le salut vient de l'Éternel qui a été donné. C'est très important de saisir cela. Tite 1, verset 1. « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience de Dieu. » Dieu t'avait déjà choisi dans l'éternité. « De Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ, et pour avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » 1 Pierre, chapitre 2, versets 8 et 10 à 10. « En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, car c'est à cela qu'ils ont été destinés. » De qui il parle? Les Juifs. Parce qu'il dit, « En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été destinés, ceux qui n'ont pas cru en lui lors de sa venue. » Mais il dit, « Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Apocalypse 17, verset 14. Ici, on sait que l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est un peu comme quand vous faites une inauguration de quelque chose, puis vous mettez un gros drap par-dessus une statue, là. Lors de l'inauguration, vous tirez le drap, vous révélez ce que vous voulez montrer au monde. Mais l'Apocalypse, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Vous dévoilez de plus en plus, de mieux en mieux, sa glorieuse personne. Ça se dit, ils combattront contre l'agneau. Qui ça qu'ils combattront contre l'agneau? Les gens qui ne sont pas convertis sur la terre. Et ils combattront contre l'agneau, contre Jésus-Christ. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles. Donc, on a regardé le premier point qui était l'élection inconditionnelle est un choix divin, avec un paquet de versets. On aurait pu en donner beaucoup plus que ça. Quand je vous parle d'une doctrine comme l'élection inconditionnelle, c'est sûr que je peux passer une heure à vous expliquer ça, 45 minutes, mais je peux vous dire une chose, c'est que chacun de ces points-là ont été étudiés par des théologiens et réétudiés et réétudiés. Juste sur le point de l'élection inconditionnelle, vous pourriez avoir de quoi lire pour le reste de vos jours. Ça a été vraiment... Et il y a plein de versets pour démontrer la véracité de cette doctrine biblique-là. Le deuxième point qu'on va commencer à regarder, c'est le fait que l'élection est conditionnelle. Dieu a établi des modalités. Alors, avant la fondation du monde, Dieu a choisi certains individus particuliers en vue du salut. Son choix n'est pas basé sur aucun mérite, aucun acte ou aucune foi prévue. Autrement dit, Dieu n'a pas regardé en l'avenir et dit « OK, lui là ou elle là, d'après moi, elle va croire, donc je vais l'élu. » Pas de même. C'est pas ça que la Bible nous dit. Donc, sur aucun mérite, acte ou foi prévue chez les élus. La foi et les œuvres sont le résultat et non la cause du choix de Dieu. Autrement dit, vous êtes élus, c'est le salut, c'est le résultat et non pas la cause. Alors, la foi et les œuvres sont le salut, sont le résultat et non pas la cause du choix. Alors, Dieu lui-même a effectué le choix. Ça nous dit dans Marc 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé. Mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3 et 4. Nous souvenons sans cesse devant notre Dieu des œuvres de votre foi, des travaux de votre charité et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, sachant, frères bien-aimés de Dieu, votre élection. Et il y en a encore un, moi je le trouve particulièrement fort, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. On l'a redit. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre continuellement de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut. Autre point, donc le premier point qu'on a regardé, c'est que Dieu lui-même effectue le choix. Le deuxième point, c'est que Dieu a fait le choix avant la fondation du monde. Fait drôle de penser à ça. On n'était pas nous, on n'était pas nés. Moi, je suis venu au monde le 21 septembre 1946. Puis le Seigneur m'a placé en Jésus-Christ dans l'éternité. Ça veut dire que pour lui, j'existais potentiellement. Il savait que j'étais pour exister un jour. Et il choisit des personnes comme ça dans toute éternité. On n'était même pas encore au monde, puis pour, dans son esprit à Dieu, on existait. On existait parce qu'il nous a choisis, qu'il nous a placés dans la personne de Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. « Qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, dessein D-E-S-S-E-I-N, selon sa propre décision, selon sa propre résolution, on pourrait choisir d'autres mots, selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles. » C'est drôle de penser à ça. Hein? Moi, je suis venu au monde en 1946, avant ça, je n'étais pas là. Comment qu'il y aurait dit, quelqu'un vous aurait parlé de moi, j'aurais dit, je ne connais pas, lui, il n'est pas là, personne ne le connaît. Mais pour Dieu, j'existais de toute éternité. Il nous a choisis alors qu'on n'existait pas encore. C'est quelque chose de merveilleux, ça. Hein? Apocalypse, chapitre 13, au verset 8. « Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits, dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé, l'adorèrent. » C'est qui a adoré? Satan, la bête. Ça dit que tous ceux qui, à un moment donné, quand la fin du monde va arriver, tous ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie, comme ça dit, et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Ils ont adoré qui?
Satan.
Parce que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. C'est aussi simple que ça. Et Apocalypse 17, verset 8, qui dit encore la même idée de la question de où nos noms sont écrits dans les livres de vie. Apocalypse 17, verset 8, « La bête que tu as vue a été et n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. » Alors, on ne rentrera pas dans l'exposition de ces versets-là ce matin. L'idée à retenir, c'est que Dieu avait choisi ses élus dès la fondation du monde, avant même qu'on existe. Dieu a choisi, troisième point qu'on va regarder, Dieu a choisi des individus en particulier, en vue du salut. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie, avant la fondation du monde. Alors, on vient de voir Apocalypse 13, 8 et 17, 8 qui expriment cette idée-là. Maintenant, le choix divin, comme on l'a déjà mentionné au début, n'a pas été basé sur des mérites prévus. Autrement dit, il n'a pas regardé l'ensemble des êtres humains, il a regardé leur comportement dans la vie. Il y a eu comme une balance, où il a décidé que ceux qui étaient bons, il leur accordait, ceux qui n'étaient pas bons, il les accordait. On était tous méchants, on était tous condamnés, on était tous coupables. Alors, le choix de Dieu n'a pas été basé sur des mérites prévus, sur les personnes qu'il a choisies, ni ne fut basé sur des bonnes œuvres prévues en eux. Autrement dit, c'est pas parce que Dieu regardait dans l'avenir. Parce que lui, pour lui, on existait déjà, donc toute la vie qu'on est en train de vivre, on est en train de la dérouler, la vie. Mais lui, il la voyait de toute éternité au complet. Mais il ne t'a pas élu parce qu'il a vu que tu mènerais une bonne vie, puis que tu étais mieux que les autres. Une grâce, c'est quelque chose qui t'accorde alors que tu ne la mérites pas, plus loin, comme on a dit tantôt, que tu la démérites. Alors, si on vient de voir Romains chapitre 9, verset 1 à 16, Romains chapitre 9, c'est un chapitre des Écritures qui a été très fortement contesté, qui est rempli de très profondes vérités, qui n'est pas facile nécessairement à comprendre dans son ensemble. Romains 9, verset 11 à 16. Ici, il est en train de parler d'Ésaü, d'Isaac. Il y en a un qui a été sauvé, l'autre non. Alors ici, ça se dit, car les enfants, il parlait d'Ésaü et d'Isaac, car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien, ni mal. Et afin que le décret d'élection de Dieu demeura ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement, car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Assez spécial, ces versets-là. Verset, chapitre 9, c'est vous pourriez l'étudier toute votre vie, puis je pense que vous ne l'auriez pas vidé encore. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il dit, le Seigneur dit, « Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. » Autrement dit, il est en train de dire, « C'est moi le bâton. » Romains 10, verset 20. « Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point. J'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. » Autrement dit, les Juifs, ils attendaient le Messie. Quand il est venu, ils l'ont ignoré. Ils l'ont rejeté. Et le Seigneur est en train de dire ici, « Je vais me faire connaître. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point. » C'était toutes les nations. Tous ceux qui n'étaient pas des Juifs. Le Seigneur, il dit, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point. J'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. » Alors, le Seigneur est en train de dire que après que les Juifs l'ont rejeté, lui a décidé d'accorder le salut aux nations. Il y en avait quelques-uns des nations qui avaient été sauvées dans l'époque d'Israël, mais ce n'était pas la majorité. C'est après que les Juifs ont rejeté Jésus que le Seigneur a étendu son salut aux nations. Nous. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Ça, c'est des versets, quand on les lit, des fois, c'est un petit peu choquant. Mais c'est une vérité. Dieu dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » C'est qui, ça?
Nous
c'est nous autres. « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde. » C'est qui, ces choses faibles du monde? C'est nous autres. « Pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. » C'est qui, ça, les choses viles?
C'est nous.
« Faibles, folles, viles. » C'est ça qu'il est en train de dire de nous. C'est vrai. Parce qu'on était des pécheurs, corrompus, condamnés à l'enfer. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Et moi, Acte 13, 48, moi, c'est un verset que j'aime de façon particulière. Les gentils dans les Écritures, c'est les non-juifs, les nations. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, quand tu crois, c'est parce que Dieu t'avait destiné à la vie éternelle. Acte 18, verset 27. Et comme il voulut passer en Achaïe, les frères qu'il y avait exhortés écrivirent aux disciples de le recevoir. Et quand il fut arrivé, il profita beaucoup à ceux qui avaient cru par la grâce. C'est la grâce qui te permet de croire. Et la nouvelle naissance, bien entendu. Si Dieu ne te régénère pas, tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. C'est ça que la Bible nous dit. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Il faut que tu aies été régénéré. Une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Tu es mort spirituellement. Et si Dieu ne vient pas te donner cette vie-là, tu n'es pas capable de comprendre les choses spirituelles. Tu ne comprends pas. Et même si tu le dis, toi, tu comprends bien, là, tu voudrais leur expliquer avec des mots, ils ne comprendront pas. Imaginez-vous, c'est un privilège énorme que de croire au Seigneur. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Ça aussi, c'est un verset à méditer beaucoup même, je dirais. Et là, il parle à des croyants, il dit, « Parce qu'il vous a fait la grâce, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Y a-t-il quelqu'un qui veut m'expliquer ce que ça veut dire, ça? Il dit, « Il nous a fait une grâce. » Une grâce, c'est une faveur déméritée. De croire en lui. Mais il nous a fait une autre grâce parce qu'il a dit, mais encore, de souffrir pour lui. C'est une grâce que de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Quand on souffre pour lui, le Seigneur il dit qu'il va nous donner des récompenses énormes pour ça. On mérite ça, nous autres. On ne mérite pas ça. Donc, il nous a donné une double grâce, celle de croire en lui et celle d'être capable de souffrir pour lui. Parce que quand on devient chrétien, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on va souffrir pour lui. Parce qu'on va être rejeté, on va être méprisé, on va être haï, on va être persécuté, on peut être emprisonné, comme on le voit le mercredi, on est en train de faire une série sur les différents pays qui maltraitent les chrétiens, ils emprisonnent, ils n'ont plus de travail. Dans beaucoup d'endroits du monde, nous ici, on vit dans la ouate comme chrétiens. Non? Mais il y a certains pays du monde que vivre ta foi en Jésus-Christ, ça t'amène énormément de troubles. Et le Seigneur te dit que c'est une grâce que de croire en lui, et c'est aussi une grâce que de souffrir pour lui. On ne s'arrête pas souvent à penser à ça. Hein? Parce qu'on ne devra pas avoir peur de souffrir pour lui, parce que plus qu'on va souffrir pour lui, plus notre récompense va être grande. C'est ça qu'il nous dit dans les Écritures. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 et 5. « Sachant, frères bien-aimés, votre élection, car notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit-Saint et d'une abondante efficacité selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. » Je reviens avec 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Étonnement. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu, à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va terminer par un dernier verset, Jacques chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Alors, je suis rendu là, je n'ai pas de crayon, en tout cas. La semaine prochaine, on continuera à partir de là pour tout cela.